Voilà, on va découvrir.
Oui, alors là, on a fait quelques kilomètres. Alors, c'est l'occasion de rappeler qu'un musée, c'est un endroit que tout le monde connaît. Il y a toutes les questions des réserves. Et les réserves, elles peuvent se trouver vraiment à l'extérieur du musée.
Oui, et ça de plus en plus. Dans les nouvelles réserves qui sont actuellement construites, si vous avez un nouveau musée ou un musée qui doit réaménager ses réserves, on a souvent ces solutions externalisées qui se profilent parce que voilà, il faut plus d'espace, des conditions plus adéquates, et c'est souvent cette manière de procéder qui est la meilleure, mais par contre qui a évidemment des coûts et c'est pas évident de... Donc on va entrer, c'est sécurisé. Par contre, ça demande aussi une toute autre manière de gérer, d'envisager nos réserves. Si on est à l'extérieur, si on se trouve un petit peu plus loin d'elles.
On va avoir un plan de ses réserves un petit peu sur son lieu de travail aussi.
Oui, et je dirais même, en fait, on doit même avoir un lieu de travail à côté des réserves. On va le voir ici. C'est ce qu'on a souhaité obtenir et à ce moment-là. Donc là aussi, j'enlève l'alarme. Des réserves qui doivent être sécurisées en termes d'alarme incendie, mais aussi de vol. Hein. Mmh. Et puis, peut-être avant, donc, peut-être commencer par le... D'abord par les bureaux.
Les bureaux, c'est ce lieu qui est en dehors de la réserve elle-même, qui permettent, notamment par exemple, à des chercheurs de travailler proche des pièces.
Et je dirais avant les chercheurs, déjà nous-mêmes, de pouvoir avoir un lieu dans lequel on accueille les nouvelles pièces, on puisse réaliser l'inventaire, on puisse les photographier, parfois les traiter ou les mettre un petit peu de côté avant qu'elles soient entrées ou même en attente de décontamination. Parfois, il y a peut-être des traitements qui sont à réaliser hein, selon les pièces ou si, par exemple, du bois est infesté. On ne va pas, évidemment pas le mettre avec les autres réserves pour pas qu'elles ne touchent les autres pièces. Donc, toutes ces choses-là, dans l'idéal, c'est bien d'avoir des espaces complémentaires qui permettent donc de les réaliser, donc d'avoir vraiment un espace de gestion hein, de ces réserves.
Au fil des années, des objets qui racontent l'histoire du Jura, en l'occurrence, ou de la peinture pour un autre musée, ou que sais-je, la paléontologie, on en trouve toujours. Donc, les réserves, elles doivent s'agrandir. On doit trouver de nouveaux locaux. C'est pour ça que certaines fois, ces locaux ne sont pas à proximité du musée. Ça, c'est l'un des problèmes actuels de beaucoup de musées.
Oui, bien sûr. Et de penser déjà... quel accroissement on veut ou pas pour nos réserves. Il y a aussi parfois des collections dont on va se détacher. C'est-à-dire que, par exemple, ici au musée jurassien, au moment où le musée jurassien des sciences naturelles a été créé, il y a certaines collections qu'on a remises au musée jurassien des sciences naturelles. Ce musée a été créé en 1909, donc le musée jurassien d'art et d'histoire. À l'époque, il n'y avait pas d'archives au niveau de... Enfin, le canton du Jura n'existait pas, donc on a aussi conservé, on faisait aussi office de bibliothèque et autres, aujourd'hui plus. Donc, quelles tâches on a, quelles fonctions, donc travailler davantage en réseau, et on ne peut pas tout garder non plus. Ça, c'est clair, il faut faire des choix. Et peut-être encore plus aujourd'hui, on est dans un monde qui bouge beaucoup, qui fabrique beaucoup d'objets, aussi penser à quels matériaux survivront dans 100 ans, 200 ans, 300 ans, vraiment d'essayer de penser les choix qu'on fait, les assumer. Alors, ce n'est pas simplement le fait qu'on n'a pas de place qui doit nous inviter à garder ou pas un objet, mais c'est essentiel de se dire, est-ce qu'on veut garder une pièce de manière exemplaire, plutôt que de garder 10 rouets, en conserver un. Il y a des pratiques qui peuvent différer au fil du temps, et c'est vrai que ces contingences matérielles nous obligent aussi, évidemment, à nous poser ce type de questions.
Alors, on quitte le bureau, et puis on va trouver l'une des grandes réserves actuelles qui est... l'une des dernières acquisitions du musée.
Et l'une des très grandes acquisitions même du musée, essentielle pour nous. Alors ça, c'est vrai. Voilà. Donc, comme je vous disais, qui est en train d'être aménagé. Et donc, pour l'aménagement, ce qui manque encore, on a lancé une recherche de fonds aussi pour pouvoir acquérir des grilles à tableaux, du matériel, des étagères qui sont déjà là, qu'on peut déjà voir, qui sont vides pour le moment. C'est pas parce que, enfin, elles ne le seront bientôt plus, puisque une grande partie des autres réserves seront libérées. Mais on a effectivement quand même pensé, envisager l'accroissement des collections, donc en tenant compte aussi de ces éléments.
Ces objets doivent souvent, même s'ils ne sont pas exposés, ils doivent avoir de la place. On ne peut pas justement les entasser. C'est ça aussi l'un des soucis des réserves.
Tout à fait. On le voit ici entre deux étagères. On a de la place pour accéder à ces pièces, pour pouvoir sortir les objets, pouvoir les traiter, les mettre à disposition de chercheurs ou de collègues. Donc oui, effectivement, il faut vraiment penser aussi à l'espace, comment on l'aménage, en termes de sécurité, en termes de contenant, comment on va présenter les objets. Si là, on a certaines boîtes, j'en sors une, on a la liste des pièces qui se trouvent à l'intérieur de cette boîte qui est présentée, avec le numéro d'inventaire, une description. On peut la retrouver, évidemment, sur le système d'inventaire informatisé, mais pour ne pas aussi perdre trop de temps pour retrouver les pièces et ne pas les endommager en les manipulant de manière un petit peu trop souvent, enfin, trop fort. Donc voilà, donc ça c'est aussi tout un processus et ça demande beaucoup de temps de reprendre chaque collection, de faire une photographie, de lui donner un numéro d'inventaire. Et quand je dis un numéro d'inventaire, l'objet doit être aussi marqué. Concrètement, il doit être, une fois qu'il entre au musée, il reçoit ce numéro et c'est vraiment, à ce moment-là, c'est vraiment un rituel de passage, même un rite de passage qui l'inscrit pleinement dans les collections du musée. Il y a différentes manières aussi de marquer l'objet selon la matière, en quoi est fait l'objet. Donc on va pouvoir parfois l'inscrire directement ou parfois sur une étiquette non acide à côté.
Il y a quelques objets que je reconnais ici parce qu'ils ont fait partie d'une exposition il y a quelques temps qui était consacrée notamment à l'industrie de la cigarette dans la région. Et puis moi, la question que je me posais aussi aujourd'hui, c'est parfois vous recevez des objets qui peuvent avoir une certaine valeur, une valeur historique, une valeur de patrimoine. Elles arrivent ici au musée dans une réserve. Cela peut être parfois des objets qui ne seront jamais présentés au public.
On l'espère pas. Non, alors oui, ça peut être pas au public, mais peut-être souvent on a par exemple pour cette collection Burrus, effectivement, on a notamment plusieurs chercheurs qui sont venus l'étudier. Donc une collection, elle ne vit pas uniquement à travers, je dirais, les manifestations temporaires ou les expositions, mais c'est aussi tout ce travail qui peut être fait pour à travers des publications, des recherches, et que l'on se doit de mettre à disposition aussi du grand public.